Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Dimanche 3 mai 2020, 9h, le journal. C'est avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une ce matin, ils sont capables de détecter des explosifs, des drogues, certains cancers. Les chiens pourraient désormais être un moyen d'alerter en cas de coronavirus.
Oui, des essais ont lieu depuis une semaine à l'école nationale vétérinaire de Maison-Alfort, en région parisienne. Ce sont les brigades cynophiles de pompiers qui s'entraînent. Et pour RTL, Sinamir, vous avez pu suivre pendant plusieurs heures ces exercices.
Des chiens entraînés, oui, à partir d'un petit prélèvement de sueur effectué sur plusieurs malades du coronavirus. Un prélèvement qu'ils vont devoir repérer à l'aveugle au fil des jours d'exercice. Le professeur Dominique Grandjean de l'École nationale vétérinaire d'Alfort pilote cette étude et il est plutôt optimiste au regard de la faculté assez infinie du nez de ces chiens renifleurs.
Si on prend des chiens de sapeurs-pompiers, ce sont des chiens qui sont habitués à faire de la recherche de personnes ensevelies ou égarées, donc à travailler un peu tout seul. Là, il faut simplement leur apprendre à se focaliser sur une suite de prélèvements qui sont alignés. Si on prend un chien de recherche d'explosifs, par exemple, il a une quarantaine de molécules dans le nez, on lui en met une de plus en des fois deux jours, des fois une journée, tout dépend des capacités du chien.
Pour la recherche du coronavirus, depuis quelques jours en Seine-et-Marne, Lesco, Maïka, Loki, Fidji et Jet, 5 Malinois des sapeurs-pompiers du département sont entraînés par leur maître. Le commandant Alexandre Joussard du 10-77 nous explique en quoi consiste cet exercice.
Dans les essais qui sont menés en ce moment, vous avez 4 portoirs ou 3 portoirs. Sur ces 4 portoirs-là, vous avez un seul qui a un bout de prélèvement de Covid-19 et les 3 autres qui ont d'autres odeurs. Le but, c'est de travailler pour que le chien caractérise cette odeur et s'arrête devant.
Des premiers entraînements encourageants qui vont être ensuite mis en situation sur des personnes porteuses du prélèvement. Pas de résultat garanti encore à 100%. L'espoir, en tout cas, du professeur Grandjean est d'utiliser ces chiens dressés en plus des tests lors du déconfinement.
Ça peut permettre aussi de faire des contrôles à l'arrivée aux frontières dans les aéroports ou en descente de paquebots, par exemple. Après, ce sera aux autorités de décider si elles s'en servent ou pas. Si on veut faire de la détection de masse, on a tout intérêt à avoir des chiens qui sont capables de passer dans une file de gens et puis de s'asseoir devant la personne qui est positive, quoi.
Une étude qui est menée en ce moment en tout sur une centaine de chiens à travers le monde dans une dizaine de pays et qui pourrait obtenir un résultat dès la fin du mois.
Le reportage de Sinamir pour RTL et avant même le dépistage, quel qu'il soit, hein, désormais les personnes arrivant de l'étranger devront observer une 14aine. Olivier Véran assure que rien ne sera imposé, tout se fera sur la base du volontariat. Le ministre de la Santé, qui par ailleurs dans Le Parisien aujourd'hui en France, prévient que la date du déconfinement peut tout à fait être remise en question si les indicateurs ne sont pas réunis la semaine prochaine.
En région parisienne, Agnès, il faudra bien plus qu'un masque pour prendre les transports en commun à partir du 11 mai.
Une charte de déconfinement est en cours de négociation avec les employeurs, les syndicats. L'objectif est clair, éviter qu'il y ait trop de gens en même temps dans un métro, un RER ou un bus. Bonjour Éric Vanier.
Bonjour.
Ce matin, dans le journal du dimanche, la présidente de la région, Valérie Pécresse, avance des mesures très concrètes.
Oui, par exemple, avoir besoin d'une attestation de votre employeur pour prendre les transports en commun, un document indiquant la plage horaire autorisée pour arriver sur son lieu de travail et la plage horaire pour en partir. Ce serait des tranches d'une heure, entre 5h30 et 10h30, pour lisser, étaler les déplacements. Et en fin de journée, entre 15h30 et 19h30, c'est en tout cas ce que souhaite la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Elle en discute actuellement avec le gouvernement, les collectivités locales, le patronat, les syndicats et les opérateurs de transport. Cette autorisation de se déplacer en train, en métro, bus ou tramway seulement à certaines heures en fonction de ses horaires de travail, il faudrait la présenter à l'entrée des gares ou des stations ou en cas de contrôle à bord, 135€ d'amende si on n'est pas en règle.
Et cette charte qui est en cours d'élaboration, Eric, que pourrait-elle contenir d'autre ?
Un engagement des employeurs à continuer à faire travailler à distance jusqu'au 18 mai tous les salariés dépendants des transports en commun, puis à partir du 18 mai de réduire leur nombre très progressivement de 10% par semaine à peu près, en prenant en compte notamment les contraintes de garde d'enfants. Ce code de bonne conduite est prêt, il devrait être signé dans les prochains jours.
Les précisions d'Éric Vanier pour RTL. Merci Éric.
On reste au chapitre économique, la SNCF aimerait les mêmes aides que celles accordées à Air France.
Le manque à gagner de ces dernières semaines semaines, voire de ces derniers mois, hein, si l'on prend en compte la grève de cet hiver, eh bien l'ardoise est énorme. Des réductions d'effectifs sont même à prévoir pour tenter de redresser la barre, Christophe Bourou.
Oui, depuis le début du confinement, les recettes sont au plus bas. Pour vous donner une idée, l'entreprise transporte en TGV à peine 3000 personnes par jour contre 300 000 en temps normal. Entre les billets non vendus et les abonnements remboursés, c'est donc un manque à gagner de 2 milliards d'euros et à cela s'ajoute le milliard perdu pendant la grève contre la réforme des retraites. Au total, 3 milliards en moins dans les caisses de la SNCF en quelques mois. Et dans la crainte de voir les comptes se dégrader un peu plus, son PDG Jean-Pierre Farandou a expliqué que l'entreprise devra se serrer davantage la ceinture et n'exclut pas des réductions de postes. En fait, c'est un appel du pied à l'État actionnaire pour une aide financière, comme pour Air France et Renault, qui vont bénéficier de 12 milliards de prêts. Une aide d'autant plus urgente aux yeux du PDG que le déconfinement ne permettra pas de sitôt de remplir les caisses avec un trafic encore réduit. 50 à 60% des TER et transiliens prévus à partir du 11 mai, 75% à la fin du mois pour un retour à la normale, pas avant début juin.
Christophe Bourou pour RTL. Parmi les secteurs sinistrés par la pandémie, celui de la culture. Emmanuel Macron annonce des décisions pour aider le milieu artistique. Des mesures seront dévoilées mercredi, dit le président de la République. Et puis, selon le JDD, les élections municipales pourraient avoir lieu les 24 et 4 octobre prochains. Un projet de loi serait actuellement examiné par le Conseil d'État. Nous en reparlerons tout à l'heure avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui est invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI.
Je redonne les dates évoquées, 24 septembre et 4 octobre prochain. Agnès, on reste là bien sûr, la suite du journal dans un instant, car il y a urgence, les spécialistes de la protection de l'enfance tirent la sonnette d'alarme. À suivre, un reportage sur RTL, à tout de suite.
RTL Matin.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Et Agnès Bonfillon pour la suite du journal sur RTL à 9h08. Les restrictions imposées par le confinement n'épargnent pas la protection de l'enfance.
Pour les jeunes placés, la période est encore plus compliquée que d'habitude. Et d'ailleurs, plusieurs spécialistes du secteur ont signé une tribune pour réclamer des mesures d'urgence. Pour ces enfants, Émilie Beaujard, c'est la double, voire la triple peine.
Vanessa a 17 ans et elle vit depuis plusieurs années en foyer. Mais en quelques semaines, les conditions de vie se sont dégradées.
Il y a un sous-effectif d'éducateurs. Les jeunes, pour les devoirs, c'est assez compliqué parce que les ordinateurs et tout, ils en ont pas. Il y a beaucoup de tensions aussi.
Vanessa vit aussi très mal la suspension des visites familiales décidées pour limiter les risques de contamination.
Je suis aussi accueillie chez ma tante, donc deux week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires. Et là, en fait, j'ai même plus le droit d'aller la voir. C'est horrible parce que ma tata, c'est un de mes seuls repères.
Solitude, perte de repères, enfants isolés sans suivi, c'est aussi ce que dénonce Michel Créoff, membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Elle s'inquiète notamment pour tous les enfants qui ont été renvoyés dans leur famille pendant le confinement pour désengorger les structures d'accueil.
Donc des familles qu'on avait déjà recensées comme fragiles, pour lesquelles il y avait déjà des situations de violence ou de négligence ou de carence, et qui se retrouvent d'un seul coup pendant 2 mois, enfermés à double tour, sans pouvoir aller à l'école, sans pouvoir jouer dehors, sans copains, sans rien. Donc tous les ingrédients sont réunis pour que ça se passe très mal. Et personne qui peut aller voir.
Personne pour aller les voir, car les visites des services sociaux à domicile sont très compliquées pendant le confinement. D'autant que les éducateurs manquent, comme beaucoup d'autres, de masques de protection.
Émilie Beaujard pour RTL. On rappelle que le nombre d'appels au 119 pour dénoncer des violences a augmenté de plus de 20% depuis le début du confinement, avec des pics ces 15 derniers jours.
Il y a cet après-midi, Agnès, championnat du saut à la perche.
Alors, saut à la perche dans son jardin, attention, pour respecter le confinement, bien sûr. Notre star française, Renaud Lavillenie, champion olympique 2012, s'il vous plaît, a eu l'idée d'organiser cette compétition connectée avec deux autres leaders de la discipline. Eux se trouvent aux États-Unis. Mais à 17h, tout le monde sera au rendez-vous, Sylvain Charlet.
Oui, et la bande-annonce de cet ultime choc des jardins a été publiée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours.
I'm Renaud Lavillenie from France.
On y voit donc Renaud Lavillenie enchaîner les sauts dans son jardin et donner rendez-vous à ses deux adversaires, l'Américain Kendricks, champion du monde 2017, et le Suédois Duplantis, tout nouveau recordman du monde avec un saut à 6,18 m réalisé en février dernier. Les trois hommes se retrouveront donc connectés depuis leur jardin. Lavillenie à Clermont-Ferrand, Kendricks dans le Mississippi et Duplantis en Louisiane. Et les règles seront simples. Julien Galland, l'agent de Renaud Lavillenie.
Il s'agit d'un concours sur une durée limitée de 30 minutes. Les athlètes placeront une barre. Il y a une barre par un élastique à 5 mètres. Et le but du jeu, c'est de franchir le plus de fois possible cette barre à 5 mètres sur ce laps de temps. Et ça sera un mix de précision et d'endurance.
Et ce concours confiné débutera à 17h et sera diffusé sur les différents réseaux sociaux de World Athletic.
I'm Renaud Lavillenie from France.
Sylvain Charlet pour RTL. Les résultats ce soir, non, on refait le sport évidemment de 19h30 à 20h avec Eric Silvestro et nos confrères du Parisien aujourd'hui en France.
Valérie, elle serrait bien le saut à la perche dans son jardin.
Non, je suis pas sûre d'arriver en haut de la perche en fait, mais même pas à la moitié.
Agnès, avec le confinement, le drive fait encore plus partie de notre quotidien.
Bah oui, on reste dans sa voiture, on évite les contacts. Alors on connaissait le drive pour certains fast-food et autres supermarchés. En revanche, pour se confesser, c'est plutôt inédit et ça existe. À Limoges, la paroisse Saint-Jean-Paul II a mis en place ce système pour les fidèles. 15 minutes maximum, tout en restant au volant. Écoutez, l'un des deux prêtres qui se livre à l'exercice, le père Vincent Poitot, lui est en dehors, à un mètre sur une chaise.
Les gens viennent en voiture, on a une petite place entre le presbytère et l'église, et donc ça fait une boucle. Et donc dans cette boucle, on a mis deux points où ils peuvent se confesser, donc ils restent dans leur voiture. Et après que la personne ait pu recevoir ce sacrement, il repart souvent transformé parce que au bout de deux mois, c'est un vrai soulagement en fait de pouvoir sentir cette présence de Dieu dans sa vie. Je pense que ce qui peut nous sortir de la banalité ou des difficultés de ce confinement, c'est un peu la joie, l'originalité, puis surtout l'humour. Ce style de confession drive, ça fait penser à aller chercher sa nourriture en drive. Les gens sourient un petit peu quand ils voient ça au début parce que j'y aurais pas pensé.
Voilà le confession drive expliqué par le père Poitot qui était avec Yves Michel pour RTL.
Formidable. Un jour, Agnès Bonfillon se confessera et il y aura des choses à dire.
Pas tant que ça, non.
Oh, une émission. Si vous voulez, on fait...